Bonjour à tous, ce samedi, émission spéciale Implant Files, après les révélations qui ont émaillé la semaine. Pourquoi ces implants, valves, stents, pacemakers et autres prothèses sont-ils mal contrôlés? Quelles conséquences pour les patients? On en parle avec Élodie Guéguin et Abdelhakel Idrissi. Bonjour.
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 Nous verrons aussi qu'au royaume de la prothèse orthopédique, certains chirurgiens libéraux touchent des pots de vin et le phénomène ne serait pas marginal. Une émission de la cellule investigation de Radio France réalisée en collaboration avec l'ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
The Implant Files.
What we're doing with this investigation is providing information.
C'est donc peut-être le début d'un nouveau scandale sanitaire de grande ampleur.
À la une ce matin, une enquête internationale qui dénonce les lacunes du contrôle des implants médicaux en Europe.
Bij de tijd zijn we volop bezig met de implant files, alles wat er mis kan lopen.
Le journal Le Soir dévoile une vaste enquête. Près de 4000 incidents ont été recensés depuis 2013 sur tout type d'implants.
Révélé par le consortium international de journalistes d'enquête, dont fait partie Radio-Canada, dans les 10 dernières années.
Mais pour l'Europe, comme pour la Suisse, aucune information sur le nombre de victimes.
Voilà, cette semaine a donc été marquée par les Implant Files, cette vaste enquête qui a montré que les implants sont le maillon faible de la médecine actuelle. Alors pour commencer cette émission, Abdelhakel Idrissi, on va revenir sur l'illustration la plus spectaculaire de cette situation. C'est l'incroyable tour de force qu'a réalisé Jet Schouten, une consoeur néerlandaise. Alors racontez-nous ce qu'elle a fait.
Oui, alors il faut savoir que pour mettre un implant sur le marché en Europe, il faut obtenir ce qu'on appelle un marquage CE. C'est un feu vert qui est délivré par un organisme notifié. Il y en a aujourd'hui une quarantaine répartis dans toute la communauté européenne. En 2015, notre consoeur a donc voulu tester le sérieux de ces organismes en se faisant passer pour un industriel. Elle a monté un dossier pour un faux implant vaginal qui était en fait la photo d'un filet de mandarine. Un dossier dans lequel elle évoquait en plus de possibles effets secondaires très graves. Elle a ensuite présenté ce dossier à trois de ces organismes et on lui a répondu « Pas de problème, madame, au vu de ce que vous nous présentez là, on peut certifier votre implant. »
Ouais, un implant qui n'existait pas, donc. Hein. Et le plus troublant dans cette affaire, Abdelhak, c'est que 2 ans après, nos confrères de Cash Investigation ont voulu voir si on en avait tiré les leçons. Ils ont fait croire à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, la NSM, qu'ils avaient un marquage CE pour un implant tout aussi bidon. Et là, même constat.
Oui, ce faux implant est une fois de plus passé comme une lettre à la poste. C'est ce que nous a raconté Marie Maurice, qui nous a expliqué comment elle a procédé.
On a monté une boîte en expliquant qu'on était l'intermédiaire de l'industriel qui fabriquait le dispositif virtuel de nos consoeurs néerlandaises. Donc on a envoyé un exemplaire de la notice d'utilisation français, un formulaire de déclaration et une copie de l'étiquette. Quelques semaines plus tard, on a reçu une réponse de la NSM nous disant « Bonjour, vous recevrez un accusé de réception dès que nous aurons procédé à l'enregistrement de vos dispositifs médicaux. Toutefois, et c'est la phrase importante, toutefois, vous n'avez pas besoin d'attendre ce document pour faire la mise sur le marché de vos dispositifs médicaux. »
Ça veut dire qu'une prothèse vaginale qui n'existe pas, vous pourriez être autorisé à l'implanter.
Voilà. Si on suit le raisonnement jusqu'au bout, on peut avoir un dispositif médical implantable qui n'aura été examiné physiquement et contrôlé physiquement que par son inventeur, c'est-à-dire l'industriel, et qui en bout de course sera implanté chez un patient, sans qu'en fait aucun tiers extérieur n'ait fait la preuve de son efficacité et surtout de sa non-dangerosité à court, moyen ou long terme.
Ça pose effectivement question d'entendre ça, Abdelhak. C'est vraiment si facile que ça de commercialiser un implant?
Eh bien, preuve est faite que oui, et la première responsable de cette situation, c'est la réglementation européenne qui, dans de nombreux cas, permet de valider des implants sans évaluation clinique et sur simple dossier. Mais c'est aussi dû au fait que les organismes notifiés qui délivrent ce marquage CE, eh bien, ils sont en concurrence entre eux. C'est ce que nous explique Jet Schouten, la journaliste néerlandaise dont on parlait.
Si vous voulez vendre un implant, quelque chose qu'on met dans le corps, peut-être pour le reste d'une vie, et si vous voulez qu'il soit autorisé, il vous faut obtenir le feu vert d'un organisme notifié. C'est un organisme privé et vous payez pour ça. Vous pouvez même faire votre marché pour faire approuver votre produit. Si un organisme notifié refuse votre implant, vous pouvez aller en voir un autre et vous pouvez aussi négocier le prix. Et si le prix ne vous convient pas, vous allez voir encore un autre organisme certifié. vérificateur qui, lui, vous fera un bon prix. Vous êtes le client et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour vous satisfaire. Donc, c'est avant tout un business.
Des propos recueillis par Édouard Perrin, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il est donc possible de faire valider un implant en Europe en faisant son marché, en quelque sorte.
Ce qui frappe dans cette affaire, c'est que finalement, en Europe, les implants sont avant tout considérés comme des marchandises. Et la plupart d'entre eux sont fabriqués par des PME, donc des petites sociétés qui n'ont aucun intérêt à ce que le système change. Et c'est ce que dénonce aussi le professeur Éric Vico, qui est chargé des implants au sein de l'APHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris.
On est dans une situation, moi, qui m'apparaît comme absolument incroyable. Est-ce que quelqu'un serait capable de nous soutenir que, bon, ben, on n'a pas pu évaluer le médicament correctement, mais c'est parce que c'est une petite boîte qui l'a fait. Si quelqu'un dit ça à l'heure actuelle, je pense qu'il ne le dira pas longtemps avant que ça fasse un scandale. Quand on nous dit, ne nous demandez pas des études parce qu'on n'a pas l'argent pour les faire, c'est, de mon point de vue, absolument inadmissible.
Ouais, inadmissible. Maintenant, est-ce qu'il y a eu, pour autant, Abdelhak, des incidents? Est-ce que ce système passoire, hein, en quelque sorte, que vous nous décrivez, est-ce qu'il a eu des conséquences graves?
Alors d'abord, il faut savoir qu'en Europe, le taux de rappel des dispositifs médicaux, dont font partie les implants, est de 27%. Contre 14% seulement aux États-Unis, où il y a là-bas un organisme central et public de certification. Ensuite, des incidents sérieux, oui, il y en a eu ces dernières années. Par exemple, on avait commencé à implanter des stents, des petits ressorts dans le cerveau, en pensant qu'on réduirait ainsi le risque d'AVC et que ce serait plus efficace que de prendre des médicaments. Des stents parfaitement autorisés, sauf que plusieurs années après, un chercheur a commencé une étude et voilà ce qu'il s'est passé.
Ce qui a été quand même assez extraordinaire, c'est que cette étude a dû être arrêtée de toute urgence parce qu'ils se sont rendus compte, en cours d'étude, avant que l'étude soit finie, que le taux de récidive, donc d'accidents vasculaires cérébraux, était de l'ordre de 2 fois plus élevé chez les patients qui bénéficiaient de la pratique avec le stent par rapport aux patients qui étaient traités avec le traitement habituel.
Alors, je précise que des implants du cerveau efficaces, il y en a aujourd'hui. Mais des exemples qui posent problème, on en connaît d'autres. Écoutez par exemple la députée européenne écologiste Michèle Rivasi, qui suit de près la question des implants au Parlement européen.
Regardez, il y a quelques années, on a mis des prothèses de hanche à des gens. Et on s'est aperçu que ces gens avaient des effets secondaires dus aux métaux qui étaient employés dans les prothèses. Si on avait fait les études cliniques avant sur des animaux, par exemple, on aurait pu le voir, qu'il y avait des allergies par rapport à ces métaux. Il a fallu qu'on les mette chez les gens. Alors les gens ont souffert et on leur a changé les prothèses après coup. Donc les études cliniques, c'est une protection. Si on n'en fait pas, eh ben, on court des risques, comme on a vu sur les prothèses de hanche ou les prothèses de genoux.
Oui, on pourrait encore citer les implants Essure qui, eux, permettaient aux femmes de devenir stériles. Certains de ces implants ont provoqué des effets indésirables graves, Abdelhak, et il faut maintenant les enlever.
Oui, ce sont des implants dont la commercialisation a été suspendue en Europe en 2017. Mais à cette occasion, on a découvert une autre aberration du système. Lorsque l'industriel a mis sur le marché son implant, il n'a pas réfléchi à la façon dont on pourrait le retirer du corps. Et le résultat, c'est qu'on n'arrive pas à les explanter correctement. Écoutez cette mère de famille de Nouvelle-Aquitaine nous raconter comment les choses se sont passées après l'intervention.
Mon médecin traitant m'a demandé de passer une radio de contrôle, de manière à vérifier que les implants étaient correctement enlevés. Et cette radio a révélé qu'il subsistait quelques morceaux. Donc suite à cela, un mois plus tard, j'ai dû subir une seconde opération lourde qui est l'hystérectomie totale. Nouvelle vérification avec une radio ASP plusieurs mois après qui a révélé que j'avais encore des microfragments. Et aujourd'hui, voilà, je vis avec ces microfragments, sachant que je ne suis pas réopérable. On m'a clairement indiqué que ce serait trop risqué d'avoir recours à une nouvelle intervention chirurgicale.
Ouais, donc l'explantation, le retrait de l'implant est lui aussi un problème. Sans parler, Abdelhak, des implants qu'on met sur le marché et dont on pourrait tout simplement se passer.
Oui, parce que, encore une fois, la logique pour les plus gros industriels, cette fois-ci, c'est de vendre, donc de renouveler leurs implants, même s'ils ne sont pas forcément utiles. Et ça, c'est Anne-Laure Bailly, une consultante en dispositifs médicaux, qui nous l'explique.
Ce que j'observe, c'est de l'innovation programmée comme du marketing. Donc il faut sortir des nouvelles choses tous les temps de temps, même des choses qui marchent très très bien. il y a des innovations programmées et des morts de choses qui marchent, qui sont programmées pour des raisons de commerciales.
C'est un peu comme l'iPhone, quoi. Il faut sortir le 4, le 5, le 6, le 6S,
ça va plutôt être ça. Il y a une pression comme ça sur toute l'industrie, parce que c'est des industries qui deviennent géantes, hein, avec les préoccupations des industries géantes.
Et des préoccupations donc de santé, mais aussi des préoccupations commerciales.
Exactement, et on en arrive donc à la conclusion suivante. Alors qu'on pensait que chaque incident, chaque scandale, chaque rappel d'implant était un problème isolé, on réalise avec notre investigation que c'est en fait au contraire tout un système qui les rend possibles.
Oui, mais un système qui va changer, Abdelhak, parce que cette réglementation européenne que vous venez de nous décrire, elle va évoluer.
Alors oui, après des années de négociations, une réglementation un peu plus stricte va entrer en vigueur. Elle prévoit notamment la création d'un collège d'experts européens qui devra se prononcer sur les nouveaux implants et elle imposera des investigations cliniques avant toute validation.
Donc on devient quand même un peu plus exigeant.
Oui, mais pour le professeur Éric Vico, les termes employés dans ce nouveau texte ne régleront pas tout.
Si vous voyez bien le règlement européen, ce qu'elle inclut, c'est des investigations cliniques. Ce qu'il aurait fallu dire, c'est quelque chose d'extrêmement simple. On a besoin que le dispositif médical ait démontré de façon rigoureuse son efficacité par rapport aux techniques qui existent, de la sorte qu'on ait une évaluation du bénéfice-risque qui soit rigoureuse, complète, extensive. On a tout fait pour ne pas dire ça. Donc, tant qu'on n'a pas cette exigence, on n'est pas au niveau.
Ouais, donc lui, il redoute qu'on fasse les choses à minima.
Oui, et autre faiblesse de cette nouvelle réglementation, elle conserve le système des organismes notifiés en concurrence qui se rémunèrent sur les certifications. La France plaidait, elle, pour la création d'une agence unique et indépendante, comme c'est le cas aux États-Unis, mais elle a été mise en minorité. Écoutez à ce sujet Stéphane Aurel, spécialiste des questions de lobbying à Bruxelles pour le journal Le Monde. Le premier pays qui ne voulait pas que ça change, c'était l'Allemagne.
L'Allemagne, c'est un pays où l'industrie du dispositif médical est extrêmement importante. Leur association de lobbying, qui s'appelle BVMed, a été très active à organiser des rendez-vous, inviter à deux reprises le directeur de cabinet de la commissaire à l'industrie pour des repas de travail dans un restaurant qui s'appelle Amor Amor. Ce qui montre vraiment une implication très forte de l'industrie du dispositif médical allemande.
Et le résultat, c'est donc qu'on a rejeté l'idée d'une agence des implants qui aurait été comparable à l'Agence européenne du médicament.
Bon, et quand est-ce que ce nouveau règlement européen va rentrer en vigueur ?
Eh bien là encore, il faudra attendre, pas avant un an et demi, et ça se fera progressivement.
Donc on est quand même au final assez loin encore des exigences qu'on a envers les médicaments. Et à Bruxelles ? À Bruxelles, on justifie comment cette politique des petits pas ?
Eh bien, un des arguments, c'est de dire qu'en matière d'implants, la technologie évolue très vite et donc qu'on ne peut pas prendre le même temps pour évaluer un implant que pour un médicament qui restera ensuite très longtemps sur le marché.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Bien alors, Abdelhak El Idrissi, maintenant qu'on a vu qu'en Europe, on peut commercialiser parfois un implant sans évaluation clinique et que ça a des conséquences, dites-nous comment, dans ce contexte, en France, cette fois-ci, on les surveille, ces implants ?
Eh bien, à la NSM, il existe un registre des incidents qui répertorie tous ceux qui sont signalés par les médecins, les fabricants ou même les patients. On y trouve la date de l'incident, la marque de l'implant et les mesures qui ont été prises. Bref, c'est un outil essentiel qui est censé permettre d'identifier les problèmes et de les corriger le plus rapidement possible.
Et je peux le consulter, moi, ce registre ?
Alors non, le registre américain, oui, mais pas le français. Cela dit, nous le sommes tout de même procurés après des mois de négociations avec la NSM.
Oui, là, vous êtes tombé de haut.
Oui, parce que non seulement on déclare encore avec des formulaires à la main, mais sur près de 182 000 déclarations d'incidents, plus de 28 000 ne précisent pas de quel incident il s'agit. Donc impossible d'en tirer quoi que ce soit. Dans l'équipe que nous avions constituée avec les partenaires français de l'ICIG, c'est Chloé Eketsweiler du Monde qui s'est occupée de récupérer ce registre et elle aussi n'en a pas cru ses yeux.
Il y a beaucoup de champs blancs, donc on voit effectivement des listes d'implants, mais pour la plupart des champs et des renseignements attendus, il n'y a absolument rien. Dans un tiers des cas, le dysfonctionnement n'est pas identifié, donc on ne sait pas ce qui a posé problème au moment de l'implantation ou un peu après. Et dans plus de 80% des cas, les conséquences cliniques ne sont pas renseignées pour le patient, donc on ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Les dates sont renseignées, mais avec parfois beaucoup d'incohérences. Voilà, on imaginait qu'il y avait en France un outil informatique sophistiqué qui permettait d'avoir un traitement automatisé d'un certain nombre d'incidents qui étaient rapportés à l'agence de santé. Or, c'est pas du tout le cas. Ça nous a paru inquiétant.
Ouais, inquiétant, assez étonnant donc ce qu'on entend là. Et c'est justement pour comprendre comment tout ça était possible que de mon côté, Abdelhak, bah, je me suis déplacé aussi. Je suis allé voir Jean-Claude Gislin, le numéro 2 de la NSM, le gendarme de la santé. Écoutez ce qu'il m'a expliqué.
En fait, cette base collecte les informations qui remontent spontanément des déclarants, hein, qui sont nos établissements de santé. C'est un exercice qui, évidemment, a ses limites. Toute la difficulté pour nous est de la compléter, en tout cas, au moins sur les sujets les plus importants. Et donc, pour cela, nous avons progressivement développé un réseau de correspondants locaux, qui sont des gens chargés de faciliter ces signalements et de les mieux documenter. Et donc, on peut espérer que tout cela va s'améliorer.
Mais est-ce qu'on peut, quand il s'agit de la santé des gens, se contenter de dire bah, « ce sont les informations qui nous remontent comme ça ?»
C'est la particularité des systèmes de vigilance. C'est un outil de travail qui nous sert d'approche pour nos travaux d'évaluation.
Mais est-ce qu'on peut parler d'outils quand, par exemple, on voit qu'il y a plus de 7000 incidents qui ont été déclarés un an après qu'ils soient survenus? Il y en a même un 8 ans après. Il y en a qui sont datés de 2019. Est-ce qu'on peut accepter ça?
C'est vrai qu'il y a des déclarations tardives, alors il y a plein d'explications possibles à cela. Hein. Mais en tout cas, il est clair qu'il n'y a pas encore une pratique du signalement totalement parfaite en France. Ça, c'est très clair. Et je ne sais pas si ça le sera d'ailleurs facilement un jour.
Ouais, pas très rassurant non plus tout ça. Alors Abdelhak, vous restez avec nous, mais nous on va aller un petit peu plus loin maintenant avec vous, Élodie Guéguin. On va continuer de parler de ce registre des incidents signalés sur les implants, mais cette fois-ci pour nous arrêter sur la marque qui enregistre le plus de signalements dans cette base. Cette marque, c'est Allergan, et Allergan, c'est un fabricant de prothèses mammaires.
Oui, c'est un des leaders mondiaux de l'implant mammaire. Allergan, c'est environ 1 000 000 d'incidents par an en France. Mais à l'occasion de notre enquête, on a découvert autre chose sur cette marque. Ces prothèses macro-texturées, c'est-à-dire rugueuses, sont souvent mises en cause dans l'apparition du LHC, le lymphome anaplasique à grandes cellules. Ce lymphome ne se développe que chez des porteuses de prothèses mammaires. En fait, dans ce cas de figure, c'est l'implant qui cause le cancer.
Et elles sont très utilisées, ces prothèses rugueuses?
Eh bien oui, ce sont les plus posées en France. Elles représentent 85% du marché. Elles sont beaucoup utilisées en chirurgie esthétique, mais aussi en reconstruction mammaire pour les femmes qui ont eu un cancer du sein.
Et donc ce seraient ces prothèses texturées qui pourraient provoquer ce lymphome?
Oui, parce qu'elles sont plus irritantes et elles provoquent des inflammations. On découvre le premier cas de LHC en 2009 en France. 2 ans plus tard survient le premier décès. On s'aperçoit ensuite que le nombre de malades augmente et dès 2016, le fabricant Allergan est pointé du doigt par le directeur général de la santé dans une lettre qu'il adresse à l'Institut national du cancer. En voici un court extrait.
Les données relatives aux fabricants d'implants mammaires montrent un sur-risque relatif de lymphome avec des prothèses de marque Allergan.
Ouais, sur-risque de lymphome, donc ça c'est écrit dès 2016. Et ensuite, Élodie, que font les autorités sanitaires?
Eh bien, elles attendent. Hein, et pourtant, plusieurs chirurgiens les alertent sur la dangerosité des prothèses très texturées. Cette prothèse est même bannie de certains centres anti-cancer. Et des médecins comme le professeur Laurent Lantieri de l'hôpital Georges Pompidou à Paris tirent la sonnette d'alarme.
Quand vous mettez une prothèse dans un corps humain et que vous avez une chance sur 3000 de contacter un cancer, mais pourquoi le mettre en place? On nous bassine tous les jours sur le principe de précaution, en disant principe de précaution, là c'est même pas un principe de précaution, c'est un principe de prévention. Moi, ma position, elle est extrêmement claire et formelle. Les prothèses macro-texturées, on les interdit, point. Et on se pose pas de questions. Et c'est là où moi je suis allé à NSM en disant, on n'en a pas besoin. Et on m'a fait, comme d'habitude. On m'a dit qu'on allait réfléchir. On se réunit tous les ans et pour constater les mêmes rapports que l'année précédente. La même chose. Quand on soulève un problème, il n'y a rien qui se passe. Mais rien du tout. C'est pas grave de s'être trompé. Ce qui est dramatique, c'est de continuer dans l'erreur.
Oui, cette inertie supposée de la NSM, Élodie, elle est aussi dénoncée par des associations de victimes.
Oui, association dont fait partie Joël Manighetti, cette victime du scandale des prothèses PIP, demande, elle, depuis des années, un moratoire sur les implants mammaires, mais elle a le sentiment de prêcher dans le désert.
Quand je reprends tous les gros scandales sanitaires qui ont été connus ces dernières années en France, ça s'est toujours produit de la même façon. Les personnes concernées constatent des choses, vont vers leur médecin qui les croit ou qui les croit pas. Quand certains les croient et qui vont auprès des autorités sanitaires témoigner, ça bouge ou ça bouge pas. Quand on regarde Irène Frachon avec le Mediator, elle a mis un certain temps avant de se faire entendre. Et pourtant, elle était médecin. Nous, on n'est pas médecin. Donc, chaque fois qu'on dit quelque chose lors des comités de suivi, on nous écoute pas. On nous dit, bah oui, vos petites statistiques, c'est bien gentil, mais c'est pas médical, c'est pas scientifique. Il y a eu, lors des derniers comités de suivi, des chirurgiens qui ont dit, bah nous, depuis le lymphome, on ne pose plus d'implants texturés. Et pourquoi vous ne faites pas de moratoire? Vous ne pourrez pas dire qu'on ne savait pas.
Alors ça, c'est ce qu'elle vous dit le mois dernier, Élodie. Et puis tout d'un coup, il y a 10 jours, coup de théâtre.
Oui, alors que nous allons publier les résultats de notre investigation, l'Agence de sécurité du médicament recommande subitement aux chirurgiens de ne plus poser de prothèses texturées. Une recommandation surprenante puisque 5 jours avant, la NSM nous expliquait qu'il n'était pas urgent de décider quoi que ce soit.
Ça ressemble un peu à ce qu'on pourrait appeler une ouverture de parapluie, ça, non ?
Oui, mais un petit parapluie, Jacques, hein, parce qu'une recommandation, c'est une décision a minima qui n'est pas contraignante pour les médecins. D'ailleurs, le lendemain, nous nous sommes rendus au congrès annuel des chirurgiens esthétiques. On leur a demandé s'ils allaient suivre cette recommandation de la NSM. Écoutez l'échange que j'ai eu avec Sébastien Garçon. Il préside le syndicat national de chirurgie plastique. Est-ce que vous allez, dans les mois qui viennent, continuer à poser des texturés ?
Bien sûr. J'utilise des micro-textures, des macro-textures limitées, et je le fais sans problème, et je suis mes patients comme tout le monde. Et parce que ça rend service pour certains types d'implants, ça donne des réponses thérapeutiques.
En esthétique également, vous poserez des texturés ?
Ben oui, parce que des rondes, si vous voulez, lisses, ça donne certains résultats, mais les patientes qui veulent du naturel, c'est plus délicat de les avoir avec des rondes lisses.
Bon alors, rondes lisses, j'ai l'impression que ça ne vous parle pas, Jacques. Ce sont des prothèses...
Je crois avoir à peu près compris, mais allez-y.
Ce sont des prothèses mammaires qui ne sont pas texturées et ces implants lisses ne provoquent pas de lymphome.
Bon, et la prochaine étape, c'est quoi ?
Eh bien, des auditions publiques en février prochain sur la sûreté des prothèses mammaires. Les autorités sanitaires pourraient ensuite peut-être décider d'interdire certains implants, 10 ans donc après l'apparition de ce lymphome en France, qui a déjà touché 56 femmes, 3 en sont mortes.
Secret d'info sur France Inter.
Bien, alors maintenant, on va évoquer un autre aspect qui est apparu au cours de notre enquête. On a vu tout à l'heure qu'en Europe, la réglementation est défaillante, mais on va voir que dans l'esprit de certains fabricants et chirurgiens, elle est tellement défaillante qu'ils peuvent même s'en affranchir. Et Abdellah Khalidrissi, c'est ce qui s'est passé à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt.
Oui, là-bas en 2011, un industriel français, Serraver, a voulu tester une prothèse de hanche. Le PDG s'est alors mis d'accord avec 2 chirurgiens de l'hôpital pour réaliser des implantations. 4 patients sont choisis, sauf que ces prothèses, elles n'en sont qu'au stade des essais sur les animaux, sur des souris et des lapins. Elles n'ont reçu aucune autorisation pour être vendues, ni pour être testées sur l'homme.
Ouais, le résultat, c'est que les choses vont mal se passer.
Oui, un des patients à qui on a implanté la prothèse va souffrir le martyre. Son état se dégrade à cause de l'implant et personne ne lui dit la vérité. Écoutez sa fille, Elisabeth, nous raconter son calvaire.
Après que mon père s'est fait opérer, il a eu 2 luxations. Il avait des douleurs qui étaient insupportables malgré tous les antidouleurs qu'on lui prescrivait. Malgré qu'on allait aux urgences, rien n'y faisait. On nous disait toujours qu'il fallait laisser le temps au temps. Et en fin de compte, on a été complètement dupés, arnaqués, manipulés. Voilà, c'est impardonnable.
Ouais, impardonnable, nous dit la fille de ce patient. Et après, Abdella, qu'est-ce qui se passe?
En 2013, le scandale éclate. Le patient se fait finalement retirer sa prothèse de hanche. Mais la justice, elle, s'empare de l'affaire. Une enquête est ouverte et s'en suivent des auditions.
Et elles disent quoi, ces auditions?
Eh bien que le PDG du fabricant, Serraver, a voulu poser les prothèses de hanche pour ne pas se faire doubler par la concurrence. Il l'a expliqué aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Écoutez un extrait de ses propos que nous avons fait lire.
Je souhaitais marquer mon territoire, compte tenu de l'intérêt que portaient certains groupes concurrents, américains et européens. Et cela était une grave erreur de ma part. On savait que tout ceci était illégal.
Ouais, donc lui reconnaît les faits. Et les chirurgiens, Abdella, qu'est-ce qu'ils en disent?
Eh bien, l'un des deux, Alain Lorta-Jacob, explique que l'entreprise voulait absolument que ce soit lui, le spécialiste des infections de prothèses, qui inaugure en quelque sorte ce nouvel implant, en sachant qu'il commettait une infraction. Voici ce qu'il a dit à la juge d'instruction.
On a travaillé sur la prothèse pendant un long moment, et un jour j'ai reçu un coup de téléphone de Monsieur Blancard. Il m'a dit « ça y est, ce serait bien que vous posiez la première ». Je me doutais bien que sur le plan administratif, ça frottait un peu sur les bords. Mais avec les études qui avaient été faites, on avait la certitude de l'innocuité de cette prothèse.
Oui, convaincu qu'il n'y avait pas de danger, cela dit, il reconnaît lui aussi les faits. Et la suite, c'est quoi, Abdellak?
Eh bien, la suite, ce sera un procès en septembre 2019. Ce chirurgien qu'on vient d'entendre, la société Serraver et son PDG seront jugés. Ils devront répondre de cet essai clinique illégal, mais aussi pour l'entreprise de la vente de centaines de prothèses de hanches et de genoux sans autorisation.
Ah oui, des centaines, ouais, c'est pas rien. Alors ça se passe en France, Abdellak. Mais vous avez découvert que cette société, Serraver, elle est aussi au cœur d'un scandale en Italie.
Oui, et il s'agit d'une affaire de corruption cette fois-ci. Deux salariés de la filiale de Serraver sont soupçonnés d'avoir payé des pots de vin et des vacances à des chirurgiens pour qu'ils posent des prothèses de leur marque. Les deux salariés ont expliqué que la société mère en France était au courant, ce que le PDG nie formellement. Un procès, là aussi, pourrait se tenir au printemps 2019.
Oui, puisqu'on parle de corruption dans le domaine des prothèses orthopédiques, ben on va continuer de tirer ce fil-là. Parce que de votre côté, Élodie Guéguin, vous avez découvert qu'en France, des dessous de table circuleraient lors des ventes de prothèses, de hanches ou de genoux, par exemple. Et le phénomène ne serait pas marginal.
Oui, pendant plusieurs mois, nous avons enquêté sur ce sujet sensible. On a rencontré des fabricants d'implants, des distributeurs, des commerciaux, des assistants de blocs opératoires. Et c'est sous le sceau de l'anonymat que la plupart de ces sources ont accepté de se confier. Comme Philippe, responsable des ventes chez un grand fabricant de prothèses, nous avons retranscrit ces propos.
Certains chirurgiens nous font très vite comprendre qu'on n'est rien sans eux, qu'ils sont les uniques décisionnaires en matière de choix d'implant. Ce qui amène très vite le sujet suivant, qui est comment est-ce qu'on collabore? Moi, ça m'a été demandé de manière très claire. Le chirurgien m'a dit « qu'est-ce que j'ai à y gagner en espèces sonnantes et trébuchantes? Si je pose vos prothèses, je gagne combien ?» Dans le milieu, tout le monde sait que pour accéder à une grande majorité de chirurgiens, il y a un deal à la clé.
Alors Jacques, les deals entre ceux qui fabriquent les prothèses et ceux qui les posent, évidemment c'est illégal.
On l'imagine bien, mais pourquoi on observe cette corruption particulièrement dans le secteur des prothèses de hanches ou de genoux, dans les prothèses orthopédiques, Élodie?
Eh bien la prothèse orthopédique est un marché juteux, les marges y sont très importantes, on parle parfois de 70 à 75%, il y a peu d'innovation et la concurrence est féroce. Alors pour décrocher des marchés, certains commerciaux au service de fabricants acceptent de franchir la ligne rouge, comme Joseph, dont nous avons fait lire le témoignage.
La corruption, j'y ai été poussé, j'ai dû y passer. C'était le seul moyen de rentrer dans une clinique dans laquelle nos produits étaient totalement absents. Le chirurgien m'a dit qu'il prendrait mes produits si je lui accordais les avantages qu'il avait avec son ancien fournisseur, à savoir une commission en argent liquide, l'équivalent de 8% du prix de la prothèse à chaque pose. J'allais retirer de l'argent sur mon compte en banque personnel et je l'amenais au chirurgien. C'est pas facile pour les grosses boîtes d'un point de vue comptable de sortir du cash pour les médecins, mais les petits agents sont beaucoup plus libres. On fait ce qu'on veut.
Ouais, ce qu'on veut, ça veut dire, Élodie, corrompre donc plus facilement certains chirurgiens.
Oui, et c'est aussi ce qui a été demandé à cet autre agent commercial qui a souhaité que l'on modifie sa voix. Il a été approché par une société étrangère qui voulait vendre ses prothèses en France.
C'était une société qui était prête à proposer un pourcentage du chiffre d'affaires, un pourcentage à l'agent et un pourcentage directement pour le chirurgien.
Clairement, qu'est-ce qui vous a été proposé ?
30 plus 10, quelque chose comme ça. C'est-à-dire 30% de commission pour l'agent et 10% de commission pour le chirurgien.
Ouais, 10% et ces commissions, cet argent, Élodie, il passe parfois par des montages assez particuliers.
En effet, on s'est aperçu que des agents qui travaillent pour le compte de fabricants français, qui livrent des cliniques et des hôpitaux français et qui pour cela touchent des commissions, ces agents se sont installés dans des pays à la fiscalité réputée plus douce. On en trouve un certain nombre au Luxembourg, à Monaco, comme en témoigne aussi Philippe, le cadre d'un grand fabricant.
Les commissions sont reversées à des sociétés qui sont basées dans des paradis fiscaux pour des implants qui sont vendus en France. Je trouve ça franchement limite. Pourtant, ces montages se sont multipliés ces derniers temps, notamment avec des distributeurs basés en Suisse.
Oui, en attendant, ces commissions, faut quand même rappeler qu'elles sont entièrement remboursées par la sécurité sociale, de fait. Hein. Bon, cela dit, la corruption n'est pas le seul moyen pour les industriels de récompenser la fidélité des chirurgiens. Il y a d'autres façons, Élodie, de leur faire plaisir.
Hein. Oui, en enquêtant dans le milieu de l'orthopédie, nous avons découvert que des médecins bénéficiaient de très généreux avantages de la part d'industriels. Ça va de la simple invitation à dîner à la prise en charge des frais pour un congrès sous les cocotiers.
Et où ça ?
En Outre-mer, des journées de l'orthopédie sont organisées chaque année. Le prochain congrès d'ailleurs sera à Tahiti au mois d'avril. Beaucoup de professionnels de métropole font le déplacement et les frais d'avion, d'hôtel, etc. peuvent être pris en charge par les industriels si les médecins s'engagent à intervenir publiquement durant l'événement. Ces congrès au soleil, Anne, technico-commerciale depuis près de 30 ans dans l'orthopédie, les connaît bien. Elle se dit écœurée par tout ce qu'elle a pu observer.
Pour moi, il n'y a pas de mal à aller au soleil là où il fait beau. Mais dans ce cas, il ne faut plus appeler ça un congrès. C'est un voyage d'agrément qui peut être considéré comme une contrepartie pour remercier un chirurgien de sa fidélité à l'égard d'un fabricant ou d'un distributeur. Ces pratiques participent déjà d'un système de corruption, selon moi. Parce que ces chirurgiens demandent à participer à ces congrès chaque année, soit sous le soleil et les cocotiers, soit dans de grandes villes des États-Unis comme à Las Vegas. Et si un fabricant venait à leur dire « Non, on ne peut pas prendre en charge tous vos frais », de nombreux chirurgiens changeront de fabricant. Ça ne les gêne pas.
Bon, et les chirurgiens, eux, ils en disent quoi de tout ça ?
Eh bien, j'ai justement demandé ce qu'il en pensait à Franck Fitoussi, le secrétaire général de la Société française de chirurgie orthopédique, et lui m'a assuré que ça allait s'arrêter.
Ces invitations par des fabricants de chirurgiens outre-mer, on va dire, ils vont bientôt ne plus être possibles grâce à la nouvelle réglementation qui fait que maintenant les chirurgiens ne vont plus pouvoir être invités directement par les fabricants.
Donc vous vous réjouissez que ce soit terminé, quoi. Celui de Tahiti, là, dans quelques mois, c'est le dernier.
Je pense qu'il est logique qu'un chirurgien ne soit pas invité directement et que tous ses frais ne soient pas payés par un laboratoire, sauf d'autant plus que c'est soit dans des très beaux hôtels, soit outre-mer avec des frais très importants.
Ouais, donc les congrès payés par les industriels, ça pourrait donc s'arrêter, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on n'ira plus outre-mer. Hein. Mais pour les pratiques de corruption dont on parlait tout à l'heure, Élodie, là ils en disent quoi ?
Eh bien qu'ils n'en ont jamais entendu parler. En revanche, le président de l'Association des fabricants européens d'implants orthopédiques, Jean-Luc Moya, l'a admis à notre micro, oui, la corruption dans l'orthopédie, ça existe.
Il existe ce qu'on appelle de la corruption entre des industriels et des prescripteurs. Parmi nos adhérents, il peut y avoir des gens qui ont des offres ou qui répondent à des demandes, à des besoins. De corruption ou d'échange d'argent, oui, cela existe. Moi, j'ai un peu de recul sur le métier. Ça me gêne de plus en plus d'entendre ce que j'entends au poste que j'occupe, c'est-à-dire animer l'association Infideo où il y a différents fabricants européens, italiens, français, il y a même des américains qui se plaignent de comportements car la compétition n'est pas tout à fait bien honnête. Il y en a qui ont envie de dénoncer des pratiques qui existent peut-être depuis un certain temps mais dont on avait la capacité à absorber parce que ça ne nous gênait pas au quotidien dans notre business.
Oui, là donc, ça deviendrait gênant, hein, c'est ça qu'on entend.
Oui, et pourtant, ce qui peut surprendre, c'est que cette compétition pas très honnête n'a pour l'instant pas déclenché d'enquête judiciaire de grande ampleur. C'est ce que nous dit cette fois le professeur Jérôme Peignet. Il est co-directeur de l'Institut Droit et Santé à Paris.
Malheureusement, nous manquons d'autorité de contrôle dans les différentes polices spécialisées. Nous n'avons pas peut-être encore les moyens de poursuivre. Est-ce que ces affaires dans le monde de la santé sortiront ou ne sortiront pas? C'est malheureusement une affaire de moyens dont disposent les services de police et la justice pour pouvoir instruire, travailler sur ces dossiers.
Oui, résultat, seulement 4 médecins ont été jugés ces dernières années pour avoir reçu illégalement des avantages de la part d'industriels, des condamnations à des peines d'amende de quelques milliers d'euros.
Oui, ce qui contraste quand même singulièrement avec ces pratiques qu'on nous a par ailleurs décrites au cours de notre enquête. Bien, merci Élodie Guéguin, merci Abdelhak Idrissi, merci au Consortium international de journalistes d'investigation de nous avoir permis de défricher ce monde fascinant, surprenant, mais aussi parfois inquiétant, donc des implants. Alors je précise que tout ce que nous venons d'évoquer, vous pouvez le retrouver sur franceinter.fr et sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France. Je précise qu'il existe aussi désormais un fichier mondial des implants que vous pouvez retrouver sur le site de l'ICIJ ou sur celui de France Inter. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer pour sa précieuse collaboration. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. Merci à Lucas Vaillant qui était à la technique aujourd'hui. Et merci à Jean-Baptiste Audibert qui assurait notre programmation musicale. Dans quelques instants, CO de mon amour, spécial COP24 avec Denis Chessou. Et quant à moi, au nom de la cellule Investigation de Radio France, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end.